Europe 1, circuit court. Un autre regard sur l'économie.
Et circuit court, c'est tous les jours jusqu'à 14h sur Europe 1. À suivre en vidéo sur Europe1.fr avec Anne Le Gall et Maxime Switek.
Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour Maxime, bonjour à tous.
Le programme du jour s'il vous plaît.
Aujourd'hui on parle d'un nouveau langage qui permet à la fois de stimuler le cerveau des enfants, de trouver facilement un emploi et même de rétablir une forme d'égalité sociale. C'est très surprenant et il s'agit du code informatique. L'apprentissage du code est désormais obligatoire au collège et nos deux invités vont nous expliquer pourquoi c'est un immense atout pour l'avenir.
À deux autres rendez-vous dans cette émission, le portrait de Cyriel Ariel tout à l'heure. Nous ferons connaissance avec Arnaud Poissonnier, un entrepreneur français qui développe le microcrédit à travers le monde. Et puis le coup de main juste avant 14h, il sera pour un Tour de France pas comme les autres. Des volontaires vont sillonner la France à vélo pour promouvoir des solutions pour l'environnement.
Et si vous voulez poser des questions à nos invités, vous envoyez un message sur le site europe1.fr ou encore sur Twitter avec le hashtag E1CC. Soyez les bienvenus dans Circuit Court. Bonjour Frédéric Bardot.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Vous êtes le fondateur de l'école Simplon. Vous proposez une formation gratuite au code informatique pour les demandeurs d'emploi. Vos diplômés trouvent ensuite un emploi dans les 6 mois pour 80% d'entre eux. Vous allez nous raconter tout cela. Et à vos côtés, nous accueillons aussi Thierry Viéville. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes chercheur à l'INRIA. C'est un organisme public de recherche dédié aux sciences du numérique. Vous faites aussi partie du projet ClassCode qui permet de former les professeurs de l'éducation nationale au code informatique. Et vous allez nous expliquer ce que ça apporte de savoir coder dès le plus jeune âge, même quand on ne se destine pas à une carrière d'informaticien.
Et puis voici celle qui va non pas coder mais décoder tout ce que vous allez dire. Bonjour Isabelle Saporta.
Bonjour Maxime.
Vous savez coder vous-même Isabelle ?
Alors non, je n'ai pas tous les talents et en tout cas pas celui-là. Mais alors moi, vous allez m'aider beaucoup, Frédéric Bardot, parce que moi, j'avoue que j'ai vu que grâce à vous, on saurait lire, écrire, compter, coder, que donc coder, c'était un apprentissage comme un autre. Sauf que voilà, nous, il y a quelques semaines ici, on recevait, je ne sais pas si vous en souvenez, Nicolas Sadira, qui était le directeur de l'école 42, vous savez, fondée par Xavier Niel, et qui lui nous a dit qu'il fallait au contraire, pour cette espèce de monde des technologies futures, tout désapprendre, à peine savoir lire. Et alors surtout ne pas savoir coder, parce que pour lui il n'y avait rien de pire qu'un vieil informaticien, sachant qu'un vieil informaticien pour lui c'était un informaticien de plus de 30 ans, donc autant dire que je n'aimais
pas. Vous caricaturez un poil tout ce qu'il a raconté, notre invité à l'époque, mais...
Bah, c'est tout ça parce que vous voulez qu'il revienne. Et donc tout ça pour ça, plus l'histoire des deux actionnaires d'Apple là qui nous disent qu'il faut avoir au moins aussi peur de nos iPhones que de la malbouffe, donc moi j'étais en panique totale, jusqu'à ce que ce matin j'écoute le débat de Maxime Switek avec sur Stanislas de Haine, donc le futur, le grand neuroscientifique, il nous explique qu'en fait, lire et écrire, c'est déjà coder, mais coder notre cerveau. Donc du coup, j'y comprends plus rien, je vous attends pour m'expliquer.
Et bien voilà, on va y aller.
Sur vos épaules.
Énorme.
On va coder.
Et on va commencer avec vous, Frédéric Bardot, vous êtes donc le fondateur de l'école Simplon, qui est aujourd'hui une référence. Votre particularité, c'est que vous formez gratuitement au code informatique, alors des jeunes demandeurs d'emploi, des décrocheurs, des seniors. C'est un public qui n'est pas forcément né dans l'informatique, alors nous non plus, on va vous le dire. Donc pour les néophytes que nous sommes aussi, qu'est-ce qu'on apprend exactement dans votre établissement ?
Effectivement, on propose... les métiers numériques sont en tension. Et plus c'est technique, plus c'est en tension. Ça veut dire qu'il y a des postes vacants, il manque 100 000 développeurs par an en France. Et nous, on s'est servi de cette tension-là pour aller chercher des gens qui sont éloignés de l'emploi et leur donner une première, une deuxième ou une troisième chance, parce qu'il n'y a pas de limite d'âge, contrairement à l'école 42 ou à des choses comme ça. Et donc, nous, on n'est pas sur un mode élitiste, on est sur un mode inclusif. Et donc, effectivement, toutes les personnes qui sont motivées, qui ont des prédispositions pour pas trop s'ennuyer à faire du code informatique, comme il y a énormément de travail dans ces métiers-là, on leur propose une formation gratuite. Et à l'issue de ça, ils trouvent des jobs dans ce domaine-là.
Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on vient à l'école Simplon ?
Alors, quand on vient à l'école Simplon, on apprend à parler aux machines. Parce que les machines sont bêtes et stupides. Et pour leur parler, il faut utiliser leur langue. Et on leur apprend la manière de leur parler et de leur faire faire un petit peu ce qu'on
veut. Donc, on aligne des 0 et des 1.
Pas des 0 et des 1, la couche qui est juste au-dessus, qui est transformée en 0 et 1 par les processeurs. Donc nous, ça va des choses aussi exotiques que Python, Java, PHP, Ruby. Donc c'est des langages, comme on pourrait dire, le russe, le chinois ou le français, et qui permettent aux ordinateurs de traduire ça en 0 et en 1 et de faire plein de bonnes choses pour la société, on l'espère aussi.
Et on peut justement exercer quel métier en sortant de chez vous ?
Alors principalement, c'est le métier de développeur.
Qu'est-ce que c'est un développeur ? Parce que
un développeur, c'est quelqu'un qui, à partir de zéro, va créer un site web ou une application mobile et qui va être capable de la concevoir, de la développer, de la maintenir, de la réparer quand elle est cassée. Et donc voilà, il a toute la chaîne de ces compétences-là. Et vous voyez que ce n'est pas qu'une une compétence technique, hein, parce que pour faire un site web, il faut d'abord écouter la personne qui a envie qu'on fasse son site web. Donc il y a des compétences qui ne sont pas techniques.
Humaine.
Voilà, et donc c'est un vrai métier. Ce n'est pas juste des histoires de code informatique. Et donc voilà, ça permet de faire ça. Et la particularité de Simplon, c'est que les adultes, parce que c'est des adultes donc, qui sont en formation, on les oblige à aller transmettre ce qu'ils apprennent à des enfants, en scolaire, en périscolaire. Et c'est là qu'on se retrouve avec Thierry et qu'on se retrouve à écrire un livre comme Lire, Écrire, Compter, Coder. Mais ce n'est pas du même acabit.
Et vous obtenez donc des résultats étonnants. 80% des formés trouvent un emploi ou créent leur entreprise à l'issue de la formation. Vous avez des exemples de réinsertion étonnante, réussie grâce à vous ?
Oui, oui, on a des bûcherons, on a des 5 réfugiés syriens qui se sont mis ensemble pour faire une start-up qui crée une application mobile pour aider les réfugiés.
Il faut nous les envoyer, on va les rencontrer.
Refuelp, hein, ils sont vraiment géniaux. Donc voilà, c'est vraiment la Dream Team. Ils ont fait ça en dehors de Simplon, on n'était même pas au courant. Et un jour, ils nous ont dit, ça vous dérange pas qu'on dise qu'on est de Simplon alors qu'on a fait une application pour les réfugiés? Bah non, ça nous dérange pas. On a des jeunes femmes qui étaient auxiliaires de puériculture, on a des personnes qui faisaient de l'artisanat en Guadeloupe et au RSA et qui maintenant font du code, tout le monde peut coder.
Tout le monde peut coder.
Voilà, c'est pas ouvert
à n'importe
qui. Faut pas être
geek.
Non, nous on prend que des vrais débutants. Par contre, il faut avoir une tournure d'esprit. Moi, par exemple, je serais un très mauvais développeur. J'ai fait les tests de Simplon. Je ne peux pas être un développeur. J'ai pas la patience, j'ai pas la rigueur, j'ai pas le mindset, j'ai pas la tournure d'esprit. Voilà, tout le monde, n'importe qui peut pas être développeur. Mais en tout cas, c'est pas lié à votre niveau de diplôme ou à votre niveau de maths.
Quelques petites questions. Pourquoi Simplon ? Pour la station de métro qui est à Paris.
Voilà, c'est ça. Parce qu'on voulait faire un pied de nez au numérique qui est très blanc, diplômé et.
Oui, Simplon, on est dans le nord de Paris, c'est mélangé, c'est mécanique.
C'est un peu, voilà, c'est ça.
On est d'accord. Et une question importante, qui vous finance ? Vous disiez que c'était gratuit.
Ah bah, rien n'est gratuit dans la vie, vous avez raison. Donc il y a Pôle emploi, les OPCA, donc les organismes qui collectent le 1% formation, et les régions qui nous payent, ça c'est nos meilleurs amis. Et en plus, comme on est sur des territoires compliqués et des publics compliqués, on a en plus des subventions et du mécénat. Donc on joue sur tous les tableaux. C'est déjà un hack.
Thierry Vieville, donc on rappelle que vous êtes chercheur à l'INRIA, qui est un organisme public de recherche sur le numérique. Vous comprenez qu'apprendre le code désormais au collège, ce soit devenu obligatoire. On apprend le code à partir de la 5e depuis la rentrée 2016. Vous êtes satisfait de ce changement ?
Oh oui, c'est une très bonne nouvelle et ça va répondre aux interrogations d'Isabelle. Ce qu'on veut, c'est que chacune et chacun, de ma garagiste à mon fleuriste, on maîtrise le numérique. On ne fasse pas que le consommer ou pire, le subir. Et pour ça, comme tu l'as très bien dit, Fred, ce qu'il faut...
Ah oui, nos deux invités se connaissent très bien, on le précise.
Non, ils viennent de se découvrir, ils s'appellent par leur petit nom, c'est comme ça.
C'est numérique.
Une grande famille.
C'est parce que je n'ai pas du tout le trac. Ce qui est important, c'est d'acquérir ses fondements. On appelle ça la pensée informatique. Alors, quel est le moyen de s'initier ? Bah, le mieux, c'est de maniper, expérimenter, créer, s'amuser même. Et ça, c'est ce qu'on appelle le code.
Donc, ça permet de comprendre qu'un ordinateur n'est pas magique.
Voilà, un ordinateur, c'est très bête. Un académicien a employé une formule encore plus populaire. Et c'est bien la première chose, c'est démystifier tous ces mots-clés que vous avez jetés dans l'introduction.
Nous avons retrouvé dans les archives d'Europe 1 l'extrait d'une interview de Xavier Niel, le patron de Free. Donc c'était en avril 2013, au moment du lancement de l'école 42 dont on parlait tout à l'heure. Et voilà, et il estimait à l'époque que la France n'avait pas encore les formations adaptées pour faire face à l'explosion des métiers du numérique.
En France, on est la 5e puissance économique mondiale. Si on prend le numérique, on n'est plus qu'à la 20e. Ça veut dire qu'à la fin du monde, on est à la 20e, parce que le numérique, c'est les métiers de demain. Donc voilà, on passe complètement à côté, en effet. Et si la France était dans la 5e position au niveau du numérique en termes d'économie, il n'y aurait plus de problème de chômage en France.
Frédéric Barbeau, vous êtes d'accord là-dessus ?
Bah oui et non, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'un problème d'emploi et de chômage, c'est aussi un problème de citoyenneté. On ne peut pas vivre dans une société numérique si on ne sait pas ce qui se passe derrière les écrans. Donc oui, d'accord, il y a du taf, il y a de l'industrie, il y a de la French Tech, il y a plein de millions, il y a des capitalisations boursières, mais il y a aussi des gens qui doivent ne pas subir le numérique.
Europe 1, circuit court.
Circuit court, qui vous parle aujourd'hui du code informatique avec Anne Le Gall et Maxime Switek.
En quoi l'apprentissage obligatoire du code informatique est un atout pour l'avenir ? On en parle avec Frédéric Bardot, fondateur de l'école Simplon, et Thierry Vieville, chercheur à l'INRIA, organisme public de recherche sur le numérique.
Et pour tenter de comprendre justement comment ça se passe l'apprentissage de ce code informatique, de ce langage, Paul Lassen s'est rendu hier après-midi dans un atelier pour enfants à Paris. Une animation proposée par la société Magic Makers sur le temps de périscolaire, donc après l'école. Alors Paul, pour ses enfants, ça veut dire que le code est un loisir. On apprend le code comme on apprend le piano, le théâtre ou le judo.
Oui, c'est ça. Les enfants le prennent comme un vrai loisir et l'ambiance dans la classe est plutôt détendue.
Arrêtez de jeter des trucs.
Voilà, donc on se jette des post-it, c'est plus détendu que dans une salle de classe, mais malgré l'agitation, les enfants restent très concentrés sur l'écran, les yeux rivés sur Scratch. Alors, Scratch, qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est un logiciel de codage simplifié qui permet aux enfants d'animer des petits personnages qu'ils appellent les lutins. Et au programme du jour pour les élèves âgés de 8 à 10 ans que j'ai rencontrés, c'était une carte de vœux pour la nouvelle année, une carte de vœux pleine d'originalité.
Toutes les lettres, elles vont tourner. Je vais essayer de faire, par exemple, qu'à un moment, elles s'arrêtent.
On peut faire genre un chat qui bouge partout sur l'écran.
J'ai pris un peu de difficulté pour ouvrir la bouche, parce que, en fait...
C'est qui, là? T'as ouvert la bouche de qui?
Maître Yoda.
Je suis en train de prendre mes lettres et de les mettre sur l'écran et de les faire bouger pour que ça arrive dans bonne année.
Et sans le savoir, en déplaçant ces petits blocs qui animent leur carte de vœux, les enfants préparent déjà leur cerveau au mécanisme de codage qui, lui, est un peu plus complexe.
Et qu'est-ce que ça leur apporte pour le futur?
Alors déjà, dans l'idée du futur proche, à la fin du trimestre, tous les enfants que j'ai rencontrés auront créé leur jeu vidéo personnalisé déjà.
Pas mal.
Mais plus encore, aux yeux de leurs professeurs, apprendre le code pourra leur servir tant l'avenir passe par l'informatique.
Je pense que le code, ça va être important quoi qu'il arrive. Et ouais, c'est toujours intéressant, vu que de toute façon, tout se fait par ordi. Ouais. Même au-delà du code, ça reste une initiation à la maîtrise de l'informatique en général. Donc, ça sera jamais inutile.
Et ces cours de codage de Magic Makers pour enfants fonctionnent plutôt bien. En plus de 3 ans, ils ont déjà 5 ateliers en région parisienne. Et les demandes de cours pour adultes commencent à se multiplier.
Voilà, reportage de Paul Lassen, c'est exactement ce dont vous rêvez, Thierry Vieville.
Oh oui. Mais je rêve aussi que tous les enfants de France, toutes les filles et les garçons, puissent être initiés à cette pensée informatique. Et ça passe par l'école. C'est complémentaire. Et donc le fait que maintenant on puisse en prendre ça à tout le monde, c'est chouette. Et le projet ClassCode que vous avez cité résout l'enjeu majeur qui est de former les professionnels de l'éducation, une professeure des écoles, un animateur. On est ensemble, de monde académique au monde de l'éducation populaire sur ces sujets, on s'est rassemblés, donc de les former, c'est ça l'enjeu majeur, et ça concerne aussi les parents. Si vous voulez accompagner votre enfant qui apprend ce truc encore bizarre qu'on appelle le code, eh bien profitez des ressources, elles aussi gratuites, de ClassCode.
Frédéric Bardot, vous disiez pendant la pub que l'une des choses importantes, c'est aussi de pouvoir s'adresser aux filles. Et notamment le fait d'aller directement dans les écoles, on avait comme ça la parité en face des formateurs. C'est très important ça.
Ben oui, malheureusement, la diversité dans le numérique, ça commence par les questions de genre. Donc, il y a 45% de filles en terminale scientifique, 30% en prépa, 15% en école d'ingénieur. Donc, où sont les femmes, comme disait la chanson?
Bah, on essaye. Dans ces cas-là. Ouais, cette chanson, alors, moi, je trouve
désolé,
que juste le dire comme ça vaut pas.
Isabelle,
non, je rien dit.
Donc voilà, soit on va aller chercher à l'école, on met la petite graine dans le cerveau des jeunes femmes en leur disant, bah non, c'est pas un truc de mec, c'est pas les geeks, c'est pas forcément des mecs et tu peux, t'es capable. Soit on est obligé de galérer, comme à Saint-Plon, où on fait des sas spéciaux pour les filles, pour les convaincre d'aller à Saint-Plon et pour leur dire mais oui tu es capable, mais non c'est pas parce que ton frère avait toujours la main sur l'ordinateur que toi t'as pas le droit d'y toucher.
Quand vous dites les filles, ça veut dire que cette barrière entre guillemets là, elle existe aussi pour les femmes plus âgées, pour les celles qui cherchent des emplois à passer 40-50 ans?
Exactement, voilà, et c'est très culturel, hein, si vous allez en Inde, en Chine ou en Corée du Sud, un développeur sur deux c'est une développeuse et ça pose de problèmes à personne. Mais chez nous on a le mythe du petit génie, du hacker, du mec qui n'a pas de copine et qui est devant son ordinateur. Tout ça c'est complètement culturel, ça existe que dans la tête des gens.
Frédéric Bardot, vous avez écrit ce livre donc, qui s'intitule « Lire, écrire, compter, coder ». Vous mettez tous ces apprentissages sur le même plan?
Non, c'était une joke de l'éditeur. Coder, c'est d'abord lire, écrire et compter. Et c'est en plus copier sur son voisin, résoudre des problèmes, être créatif, travailler à plusieurs. Donc non, c'était plus une joke. Mais en tout cas, ça permet de renforcer le socle commun. C'est pas un truc qui s'oppose. Souvent, on se fait troller sur Twitter en disant « Ah, coder, il ferait mieux d'apprendre l'orthographe ». Mais c'est la même chose. Tout ça, c'est des savoirs.
En tout cas, des chercheurs canadiens de l'Université de Montréal ont listé 40 compétences qui se développent chez les enfants quand ils apprennent le code informatique. Il y a la rigueur, l'estime de soi, l'autonomie, la structuration des idées, le travail en équipe notamment. Vous êtes surpris, Thierry Vieville?
Non, bien sûr.
40, c'est énorme.
Et la liste pourrait être encore longue. Oui, Aujourd'hui, on est en train d'étudier ces effets positifs. Il faudra le faire avec toute la rigueur des sciences de l'éducation, comme par exemple le laboratoire LIN de l'ESPE de Nice. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dès maintenant, on peut constater des choses sur le terrain. Et pour ça, je vais vous emmener quelques secondes dans un cours d'informatique où on va apprendre la robotique sans ordinateur. On va jouer au robot. L'une d'entre vous sera l'informaticienne, moi je serai le robot.
Allez-y, faites le robot.
Donc je suis un robot, je peux avancer, tourner à gauche, tourner à droite. Et Anne, par exemple, va me donner le programme pour aller jusqu'à la tasse de café. En faisant ça, il se passe plein de belles choses. D'abord, on décolle des écrans. On apprend l'informatique en s'enlevant, pas en cliquant. Ensuite, on va apprendre ensemble. Nous gagnerons, vous et moi, que si nous coopérons. Et puis, si on est deux tout petits enfants, on va apprendre avec notre corps. Alors, ce n'est pas des pédagogies nouvelles, mais ce sont des pédagogies coopératives. Tu l'as dit, on apprend à travers des projets, on apprend en faisant, on apprend avec des gestes. Et ça, c'est une belle éducation citoyenne.
Mais Anne le disait, l'objectif, c'est que tous les enfants apprennent le code. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ?
Ça commence. C'est bien aussi de pas s'y mettre mal, donc on monte en puissance petit à petit. Et effectivement, avec ça, on va aussi développer un esprit critique. Qui sont nos ennemis ? Eh bien, ceux qui, en nous vendant des smartphones ou des logiciels, nous disent « Mais il n'y a pas besoin de comprendre, c'est tellement facile, il suffit de cliquer, même un enfant sait faire ça.
Si » Pourquoi ce sont vos ennemis, ceux-là ?
Alors, nos ennemis, la formule...
Oui, on va mettre des guillemets.
Parce que leur intérêt n'est pas d'avoir un esprit éclairé. Dans l'école 42, on prend plein de gens, on sélectionne les meilleurs, c'est-à-dire qu'on laisse tomber tous les autres, et avec ça, on fabrique des ouvriers spécialisés du développement. Chez Simplon, si tu me permets de faire le compliment, ils font l'inverse. Ils prennent tout le monde et ils leur donnent leur chance.
On sent tous les deux que vous en avez un petit peu contre l'école 42.
Non, pas du tout.
Bon, bah, si, quand même, un peu. Si, je vous assure, depuis tout à l'heure, il y a eu deux, trois tacles.
Il y a une bataille entre le numérique qui inclut et le numérique qui exclut. Donc, c'est une vraie bataille. On ne peut pas faire le numérique avec 1% de l'humanité. Sinon, c'est le même pourcent que celui d'avant. Et nous, on est toujours les 99%. Donc, ça ne va pas être possible.
En tout cas, votre victoire, c'est qu'il y a près de 40 écoles Simplon désormais en France, et pas seulement dans les grandes villes, en région parisienne, il y en a en Ardèche, dans le Vercors, sur l'île de Groix même, en Bretagne. La formation donc, est gratuite partout et ça marche partout aussi bien.
Malheureusement, oui, elle est vraiment gratuite. C'est-à-dire que même si quelqu'un n'a pas une aide de Pôle emploi, on le prend quand même, ce qui est un modèle économique complètement suicidaire pour nous. Mais c'est comme ça, voilà, c'est pour ça qu'on se lève le matin. Il y en a à Marie-Galante, il y en a dans l'Outre-mer aussi, qui sont des territoires complètement oubliés, pas forcément de l'éducation nationale, mais de tout le monde en fait. Et c'est très important qu'on ait des écoles là où il y a les gens.
Et alors, à côté de vous, il y a des tas d'écoles de code sur différentes durées, avec différents tarifs. Comment on s'y retrouve là-dedans ? Parce que, effectivement, c'est parfois compliqué de choisir une formation. Thierry Vieville ?
Alors, en s'y mettant tous ensemble. Le projet Classe Code a vraiment rassemblé le privé et le public, le scolaire et le périscolaire. On a créé des tiers-lieux dans lequel on vient à la fois faire du business. Magic Makers, que vous avez cité, est un fer de lance de Classe Code et fait ce que je vais appeler du bon business et du business éthique avec ça. Et puis, il y a aussi la notion de service public, où là, il faut profiter de nos impôts pour permettre à chacune et chacun d'avoir ses possibilités.
Et puis l'État nous a tous mis dans le même sac, et ça s'appelle le label Grande École du Numérique.
Bah, une
formation labellisée Grande École du Numérique, c'est un gage de qualité et d'inclusion, parce qu'il y a 30% de filles minimum et 50% de gens peu ou pas diplômés.
Grande École du Numérique.
Voilà, et ça n'est pas une grande école, c'est un réseau de 419 formations labellisées Grande École du Numérique.
Europe 1, circuit court.
Jusqu'à 14h, le dress code aujourd'hui dans Circuit Court.
Le dress code,
c'est le code informatique.
Waouh, wow.
Aïe, ça.
Je suis nulle en informatique, mais j'essaye de faire quelques
bons mots.
C'est vrai, époustouflée.
Ah
bah au moins, oui, bien sûr. C'est avec Maxime Switek et Anne Le Gall.
Et on s'intéresse effectivement au code informatique qui, dans certains cas, peut être un vrai tremplin pour l'emploi et un ascenseur social. On en parle avec Frédéric Bardot, fondateur de l'école Simplon, et Thierry Vieville, chercheur à l'INRIA, organisme public de recherche sur le numérique.
Plus de suspense, vous nous l'avez dit avant la pause, Isabelle Saporta. Vous avez tout compris depuis le début de l'émission.
Ah non, j'ai pas dit ça quand même. Hein. Voilà, j'irai pas jusque là, mais je comprends mieux. Et d'ailleurs, et puis en plus, je suis très contente parce que vous aviez dit, Maxime, que j'étais la méchante tout à l'heure avec l'école 42 et j'ai trouvé plus méchant que moi. Quoique vous m'avez dit quand même pendant la pub que vous faisiez des hackathons, c'est ça, des marathons de développeurs ensemble. Donc tout va bien. Les gens s'aiment quand même malgré tout et c'est beau. Quoi qu'il en soit, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce que vous nous disiez, c'est qu'effectivement, au fond, il fallait se réapproprier cette technologie, essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière les smartphones, essayer de faire en sorte que finalement, il n'y ait pas 1% qui contrôle finalement nos pensées, notre devenir, etc. et qu'on se ressaisisse de tout ça. Et c'est d'autant plus intéressant que même sur les soldes hier, on s'est posé les questions des algorithmes et qu'effectivement, aujourd'hui, l'informatique est partout et est omniprésent. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, Frédéric Bardot, pardon, tout à l'heure, c'est que finalement, vous avez dit qu'il y a quand même des prédispositions. Et là-dessus, en ça, vous étiez d'accord avec Nicolas Sedira qui nous a dit que tout le monde ne sera pas un codeur, un développeur. Donc on voit, et là, énorme transition, avec toutes les histoires de Stanislas Dehaene qu'on a aujourd'hui, c'est effectivement qu'aujourd'hui, il y a intérêt à regarder comment fonctionne le cerveau de chacun pour voir quelles sont les prédispositions des uns et des autres à longueur de temps. Donc ça, je trouve ça très bien.
Stanislas Dehaene, je le précise, qui préside le conseil scientifique mis en place aujourd'hui par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer.
Tout à fait. Et donc, Thierry Vieville, vous disiez tout à l'heure que c'était extraordinaire qu'avec ClassCode, qui est financé par l'État, hein, c'est ça que vous nous expliquiez, maintenant il y allait l'avoir, effectivement, dans chaque école, la possibilité de coder, etc. Moi, j'ai des souvenirs assez dramatiques des cours d'informatique, excusez-moi. C'est-à-dire que si on a un... J'ai rien contre les professeurs en général, que les auditeurs se rassurent, mais qui ont déjà un emploi du temps surchargé et qui se retrouvent en plus à faire du codage, qui n'était pas forcément leur truc au départ, est-ce que ça va bien se passer? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est pour Paul Lassen. Je voulais juste me poser la question. Magic Makers, que ça va l'air super bien et super chouette, c'est payant? Voilà, d'accord. Et donc, on est d'accord que là, on retombe un peu dans
C'est payant pour les élèves.
Et donc, on est d'accord que là, on retombe un peu sur le problème des 1%. C'est-à-dire que si vous êtes bourgeois, vous aviez déjà le moyen de faire des petits cours pour vos enfants, des cours d'anglais, des cours de machin, vous faites des cours de codage en plus. Ok.
Voilà.
Voilà. Alors, pour tout le monde et le class code et comment ça va bien se passer.
Ce que vous avez décrit.
Thierry Vieville.
Oui, Thierry. Ce que vous avez décrit très bien, c'est comment exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc, la première chose, c'est qu'il ne faut pas que le code vienne en plus. Il faut que ça s'intègre dans le socle fondamental. On ne fait pas en plus apprendre à programmer, c'est grâce à l'apprentissage du code, on va mieux apprendre à lire, par exemple. Le deuxième élément que vous avez très bien décrit, c'est le problème de la technologie. Il faut être en low-tech, il ne faut pas spécialement apprendre le code avec des outils très compliqués. Je vous propose de prendre des post-it et un crayon, de les faire circuler dans la classe, et grâce à ça, de comprendre comment marche un réseau, comment marche Internet. Et puis, ce qui est sous-jacent dans votre démarche, c'est aussi l'idée qu'il faut apprendre autrement. Apprendre en faisant, en équipe, etc. Bon, les profs ne nous ont pas attendus pour faire ces pédagogies qu'on appelle improprement nouvelles. Mais le fait d'apprendre ce qu'on appelle le code, c'est vraiment un endroit où on va pouvoir s'arrêter et donner d'autres façons d'apprendre.
Vous parlez de profs, on a un message d'une prof qui s'appelle Sonia et qui se fait appeler Algorithme sur Twitter avec le hashtag UMACCL. Elle dit oui, on apprend à coder aux élèves, c'est dans les programmes de maths et de techno, mais on n'a pas assez de temps pour programmer. Entre parenthèses, classe de 35 et pas de tablette.
Oui.
Elle a raison.
Classe de 35, c'est compliqué. Hein.
Voilà, j'ai pas de solution.
Quelle que soit la matière.
C'est pas faux. Pour ce qui est de prendre le temps d'apprendre, la réponse, ce qu'on a dit, c'est vraiment de l'intégrer dans l'enseignement. Par exemple, en maths, on doit apprendre à multiplier, à additionner. C'est une bonne chose. Mm-hmm. Vous n'allez pas me croire, c'est un algorithme. Donc, c'est plus de la part de ces enseignants un autre regard sur l'apprentissage fondamentaux, pardonnez-moi. Et pour la tablette, on y a répondu. Que diriez-vous d'apprendre sans tablette? Que diriez-vous pour s'initier à un algorithme, de le faire sur un beau tableau avec une craie?
Frédéric Barbeau.
Et pitié pas que les profs de maths et de techno avec le code. Hein. Un prof de géographie qui modifie une carte OpenStreetMap, un prof d'histoire qui vous apprend à modifier une définition Wikipédia et qui utilise les algorithmes. Un prof de français, c'est une langue le code, donc pourquoi pas de la syntaxe et de la grammaire. Ça n'est pas le monopole des scientifiques, tout le monde peut s'approprier ça.
Et ce n'est pas que de la pratique, c'est un raisonnement aussi.
Tout à fait, c'est ce qu'on appelle la pensée informatique.
La pensée
et à
l'ESPE
de Nice, les profs d'éducation physique apprennent aussi un peu d'informatique.
Est-ce que toutes les générations sont armées culturellement pour se mettre au code informatique? Est-ce que c'est pas juste une histoire de jeunes?
Eh ben non, là encore c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde monte dans le bateau et les seniors ne sont pas moins équipés que les jeunes, au contraire. C'est-à-dire qu'on voit que chez les jeunes, il y a des études assez concordantes, les jeunes sont plus consommateurs, ils ont moins de recul. Comme ils sont nés dedans, ils ne savaient pas ce qui se passait avant et en fait, ils ne vont pas regarder ce qui se passe derrière l'écran.
Ils prennent ça pour content, quoi.
Voilà, ils s'en fichent de leur data, ils se disent bon, ben, c'est pas grave. Alors qu'on a des seniors qui sont des consommateurs, mais aussi des gens qui ont beaucoup plus de temps et qui prennent ça avec du recul. Donc le digital native, c'est un mythe complet.
Et vous formez des seniors, vous?
Absolument. La doyenne, elle a 57 ans, elle a été formée à Saint-Gaudens.
Thierry Viéville.
Mieux encore, c'est un outil intergénérationnel. Toi, le jeune, tu vas cliquer plus vite que moi. Moi, le vieux, je vais t'aider à prendre du recul et je vais même peut-être aussi t'aider à avoir un avis critique sur le numérique. Parce que c'est ça le risque pour ceux qui nous vendent tout ça. C'est que si on maîtrise, si on comprend, on peut aussi dire qu'on n'a pas besoin de tout.
Le code comme instrument de liberté et d'esprit critique.
Ouais, une question encore. Comment est-ce qu'on va plus loin? Comment est-ce qu'on fait en sorte que tout ce que vous nous avez dit là, qui était quand même des objectifs, se réalise concrètement? Qu'est-ce qui manque encore en France?
Former ceux qui vont nous former. Aujourd'hui, ClassCode a déjà touché 50 000 personnes dans la première année, en partie grâce à Simplon et à tous les partenaires. On sait qu'il faudrait toucher 300 000 personnes.
Donc, des enseignants de l'éducation nationale.
Voilà, les professeurs des écoles, mais vous l'avez très bien dit autour de cette table, aussi les parents, le public. Mmh. Il faut aller peut-être jusqu'à créer une université populaire sur ces sujets. Et ça, quand on aura touché 300 000 profs, il y aura un effet de basculement. Notre société commencera à être éclairée.
Frédéric Bardot.
Oui, puis il n'y a pas que le code. C'est-à-dire que ça peut passer par la robotique, ça peut passer par la fabrication numérique, l'électronique, l'intelligence artificielle, les données. Il faut prendre un fil et le tirer, mais le tirer jusqu'au bout, pas juste à la lumière, juste à l'écume de la vague.
Il y a des pays qui sont vraiment en avance là-dessus? Est-ce qu'il y a des pays en
pointe? On aime bien dire ça en France, mais ce n'est pas vraiment le cas. Oui, il y a la Finlande, oui, il y a l'Estonie, oui, il y a l'Angleterre, mais on s'en fiche, nous on est en France. Voilà.
Un grand merci à nos deux invités. Frédéric Bardot, fondateur de l'école Simplon et auteur du livre « Lire, écrire, compter, coder ». Merci à vous également Thierry Viéville, chercheur à l'INRIA, organisme public de recherche sur le numérique.
Europe 1, circuit court.
Au circuit court jusqu'à 14h sur Europe 1 avec Maxime Switek et Anne Le Gall.
Le portrait.
Le portrait d'une personnalité qui agit à son niveau pour rendre le monde plus solidaire, c'est tous les jours avec vous Cyrielle Ariel. Et vous avez rencontré pour nous Arnaud Poissonnier, un entrepreneur social qui développe le microcrédit à travers le monde.
Oui, exactement, c'est via sa plateforme Babyloan, B-A-B-Y-L-O-A-N, qui veut dire bébé prêt, qui prête donc de l'argent à des micro-entrepreneurs à l'autre bout du monde. C'est-à-dire, vous, internautes, vous pouvez verser une somme à partir de 10 euros pour soutenir des projets comme celui de Madame A, marchande de bonbons cambodgiennes, qui avait besoin de 350 euros pour se racheter un chariot et un stock de confiserie. Une somme qu'elle a eue en quelques jours pour développer son petit business. Le but de cette plateforme, c'est de sortir de la pauvreté des populations dans les pays en voie de développement, mais aussi en France. En près de 10 ans, ce sont près de 40 000 projets qui ont été soutenus dans 21 pays, Haïti, Bénin, Togo ou encore aux Philippines. Et ce sont près de 20 millions d'euros qui ont été prêtés au total. La plateforme compte aujourd'hui 12 salariés et elle est également leader européen sur le marché du crowdfunding, donc du financement participatif de microcrédit. Et cet outil solidaire, Arnaud Poissonnier l'a découvert par hasard en 2005 suite à une rencontre bouleversante.
À l'époque, j'étais banquier et dans le cadre d'un partenariat de compétences avec une ONG, j'ai eu la chance de partir au Tadjikistan. J'ai rencontré à cette occasion-là ma première bénéficiaire de microcrédit, une femme qui avait besoin d'un petit crédit de 350 euros pour financer sa petite activité. Elle fabriquait des lits de bébés qu'elle revendait sur les marchés. Elle faisait vivre toute sa famille grâce à ce petit business. Et en fait, cette femme, pendant une heure, m'a reçu avec des sourires jusqu'aux oreilles et elle me remerciait toutes les trois minutes du crédit qu'on lui accordait. Moi, j'étais banquier de gestion de fortune pendant 12 ans. Jamais un de mes clients fortunés ne m'avait remercié comme ça. Donc, j'ai eu un espèce de choc. Et en fait, j'ai découvert ce formidable outil d'inclusion sociale qu'est le microcrédit à l'occasion de ce voyage.
Il parle de formidable outil. Pourquoi cet attachement au microcrédit?
Bah comme il le dit, pour Arnaud Poissonnier, le microcrédit, c'est le plus bel outil d'expression de la dignité humaine. Et il croit beaucoup au numérique pour autonomiser ceux qui veulent sortir de la précarité et pauvreté. C'est un outil en phase, en plus, avec les valeurs de notre société.
On est dans cette relation directe entre le bienfaiteur et le projet. Et on est dans la totale transparence. Et tout ça, c'est évidemment complètement dans l'air du temps. Et aujourd'hui, il y a énormément d'outils de solidarité qui se développent par le numérique. Parce que le numérique apporte cette proximité entre le bienfaiteur et le projet.
Et Arnaud Poissonnet nous rappelle que le microcrédit aujourd'hui, c'est 100 millions de bénéficiaires dans le monde, dont 80% sont des femmes. Mais ce sont des femmes fières et heureuses de montrer qu'elles peuvent s'en sortir elles-mêmes. Et c'est ça qui le passionne, c'est l'empowerment, c'est-à-dire donner le pouvoir à ces personnes qui vivent principalement dans des zones des bidonvilles.
Empowerment, on pourrait le traduire comment en français ?
Alors comme disent nos amis québécois, la capacitation. Hein, donc voilà, le pouvoir de donner la capacité à des personnes.
Et pour en savoir plus, rendez-vous sur www.babyloan.org. Merci Cyrielle Ariel.
Europe 1, circuit court.
Le coup de main dans Circuit court, nous soutenons tous les jours un projet, une initiative positive. Aujourd'hui, coup de main, un Tour de France, pas comme les autres. Bonjour Boris Cousin.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes membre du collectif Alternatiba et vous faites partie des organisateurs d'un grand périple solidaire à vélo, périple qui aura lieu cet été. Quel est votre objectif ?
En fait, ce qu'on veut faire, c'est accélérer le développement des alternatives parce qu'on veut relever le défi climatique et on sait que les alternatives, c'est une solution qui existe déjà.
Et donc, vous allez rencontrer des acteurs de terrain qui font bouger les choses, qui agissent en faveur de l'environnement et vous voulez faire parler d'eux ?
Exactement. En fait, on va aller à la rencontre des gens qui font déjà vivre les alternatives. On va les rencontrer, on va faire des événements en fait sur 200 territoires à travers la France et les pays frontaliers. Mmh. Et l'objectif, voilà, c'est de créer une énergie comme ça pendant une journée sur un endroit précis pour faire en sorte que ces alternatives se développent.
Et est-ce que vous avez des exemples ou un exemple concret d'acteurs que vous souhaitez rencontrer pendant ce Tour de France ?
Oui. Alors, par exemple, on a Enercoop. Qui est une coopérative de fourniture d'énergie 100% renouvelable, qui permet à la fois ces relocalisations de l'énergie, évidemment, et puis en plus, c'est conforme au scénario de mégawatt, qui permet en fait de faire en sorte de sortir de pas mal de choses qui nous gênent aujourd'hui au niveau de l'énergie.
Et alors, vous allez vous déplacer en vélo sur un trajet de plus de 5000 km, mais comment vous allez faire ? Vous allez vous relayer,
c'est
on imagine ?
Oui, c'est ça. En fait, on va avoir une douzaine de personnes en permanence à la fois sur des vélos. Alors, c'est des vélos un peu rigolos. Hein. C'est des vélos 3 et 4 places. Donc, ça permet d'ouvrir la conversation avec les gens qui nous voient. Et après, effectivement, il y a une bonne petite équipe de soutien pour faire en sorte que ça soit possible. Effectivement, 5800 kilomètres, c'est un défi assez sportif.
Sauf qu'il y a un hic au-delà du kilométrage, c'est l'argent. Vous avez besoin d'argent pour financer ce Tour de France solidaire. Vous avez besoin de quelle somme aujourd'hui ?
Là, on est en train de. On cherche 60 000 euros parce que. Alors, on travaille avec beaucoup de bénévoles, mais c'est vrai que pour tout ce qui concerne le matériel, ben là, on ne peut pas faire autrement. Donc, on a lancé une collecte sur le site Vest, qui est la banque, qui est en fait la plateforme de financement participatif de la NEF, qui est une banque éthique. Et je crois que vous en avez déjà parlé.
Absolument, on en a parlé
dans votre émission. Voilà. Donc, on est en train de rassembler 60 000 euros. Donc, on a déjà collecté 24 000 euros en quelques semaines. Donc, on est déjà super content de ça. Mais c'est vrai que si vos auditeurs pouvaient nous donner un petit coup de pouce, ben, ça serait vraiment super.
Eh ben voilà, l'appel est lancé. Voilà. Les auditeurs de Circuit Court vous ont entendu. Merci beaucoup Boris Cousin, membre du collectif Alternatiba et organisateur donc de ce Tour de France des initiatives solidaires qui aura lieu l'été prochain.
Les bonnes idées sont faites pour être partagées. Et si vous voulez réécouter cette émission ou la faire écouter à d'autres, n'oubliez pas que c'est possible en podcast. Il suffit de se rendre sur le site europe1.fr.
Demain, vous verrez qu'on peut lutter contre le gaspillage alimentaire avec un simple téléphone portable. Il y a plein d'applis pour ça, on va en parler. Merci Anne Le Gall.
Merci Maxime, merci à toute l'équipe.